Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr et aussi écoutable comme vous le faites sur les ondes en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Pascal Évieux. Bonjour.
Bonjour Yves.
Pascal Évieux, vous êtes responsable des collectives sur DIE.
Voilà, je suis animatrice.
Et vous êtes ici pour nous parler de cette journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Autour de ça, donc, vous allez proposer plusieurs rendez-vous à partir du 23 au cinéma Le Pestel, oui. Avec une projection, on va s'étendre plus longuement dans la suite de l'émission, avec Jusqu'à la garde, une projection. Donc.
Tout à fait.
Ensuite, le dimanche 25, une grosse journée avec des ateliers, des rendez-vous, des cercles de parole, enfin de tout.
Ouverte à tous, voilà. À toutes et tous, contrairement à ce que pourraient indiquer certains flyers, c'est vraiment ouvert à toutes et tous.
Et donc, ce sera ce fameux jour de cette journée, le 25 novembre, un dimanche donc.
Oui.
Et puis pour clore sur ces trois rendez-vous, celui du 30 novembre, toujours au cinéma Le Pestel, avec une projection de Les Chatouilles.
Voilà, Les Chatouilles qu'on a enfin réussi à avoir, qui est sorti le 14 novembre et qui sera suivi d'un échange avec des invités dont je vous parlerai tout à l'heure.
Alors, nous allons commencer dans la chronologie ou alors plutôt, surtout la date du 25 novembre.
Le principe peut-être du 25 novembre, qui est la journée internationale pour éradiquer les violences faites aux femmes, qui a lieu donc chaque année. Et en général, on déroule des activités dans les jours les plus proches. Donc, il se trouve que là, on commence le 23 et on finit le 30. Il y avait aussi le 23 l'idée qui aboutit, qui était de monter une formation pour les professionnels et les bénévoles qui sont au contact des auteurs et des victimes de violences. Et donc, on va avoir deux demi-journées de formation qui sont réservées à des partenaires qui interviennent auprès des publics et plus particulièrement une demi-journée qui sera pour les gendarmes des brigades de toute la vallée de la Drôme.
Nous allons sur cette journée du 25 novembre qui commencera à 9h30.
La journée de dimanche qui est ouverte à toutes et à tous et à laquelle je vous invite à venir participer, nombreux et nombreux, c'est des ateliers d'expression, Respect Yourself par exemple, qui est animé par Gis, que certains connaissent par des ateliers d'écriture, qui est un moment de partage où on entre en contact avec notre corps et notre imaginaire de façon à s'exprimer de la façon qui nous convient sur un sujet qui va nous être proposé mais qui est autour du thème qu'on a mis qui est équité et respect. L'après-midi, cercle de parole avec Marie-Ange sur égalité et respect, donc qui est plus le terme qui est inscrit dans la loi. Mais un cercle de parole avec des modalités qui permettent à chacun de s'exprimer en toute confiance, sans être jugé, et d'aller au bout de sa pensée aussi tranquillement. Donc voilà. Et puis sur la deuxième partie de l'après-midi, on va avoir une lecture théâtralisée. Enfin, donc c'est Émilie et une équipe de femmes qui vont nous lire ce texte. On fera une petite pause qui nous permettra de parler du ruban blanc, qui est un ruban qu'on arbore pour montrer qu'on s'engage dans des relations respectueuses entre les femmes et les hommes, et qui est issu de ce dont parle ce texte qui va être lu. Ce ruban blanc a été créé par des hommes après le massacre de je ne sais plus combien de femmes à l'école de Polytechnique au Canada, où un féminicide en fait, où un homme est venu à séparer les femmes des hommes et à tuer les femmes. C'est-à-dire, il estimait que des femmes ne devaient pas accéder à des métiers comme ça. Donc, à la suite de ça, des hommes ont montré leur solidarité avec les femmes en portant ce ruban blanc et en incitant à avoir une attitude respectueuse entre les femmes et les hommes. Donc ce ruban, on va en fabriquer, en distribuer, on pourra le porter. Et donc, par la suite, les collectives à 18h30 vont nous présenter leurs propres créations, chansons, textes. Et ça se terminera par un petit apéritif et scène ouverte.
Ce cadre donc autour de la journée internationale a pour titre respect et équité pour oui. sortir de la violence.
Oui.
Un titre initié localement ou alors oui. ça fait partie d'une campagne internationale.
Alors, la campagne internationale c'est égalité. Nous avons longuement discuté dans l'équipe des collectives et le jour de cette réflexion, je crois qu'on était au moins 10, et sur le mot égalité qui nous paraissait pas tout à fait adapté. C'est-à-dire l'égalité, c'est quelque chose qui est annoncé dans des lois. C'est une quête qui est jamais terminée. Elle est loin d'être l'égalité est loin d'être vraiment mise en place. Ne serait-ce que sur les salaires, ne serait-ce que sur un certain nombre de droits qui sont affichés, mais pas obligatoirement respectés. Et donc, on a parlé d'équité, qui était plus quelque chose par rapport à la notion de justice. La majorité a été pour utiliser ce terme d'équité qui correspondait mieux aux femmes qui s'engagent dans les collectives. Les collectives, c'est un groupe... spécifiquement d'IWA, ça a été d'abord un collectif constitué de professionnels de la mission locale, du centre médico-social, du centre de planification, des animateurs territoriaux et des bénévoles qui ont voulu œuvrer justement pour des relations respectueuses entre les femmes et les hommes et au départ plus particulièrement auprès des jeunes. Et progressivement, les organismes où il y avait des personnes salariées ont eu moins de temps à y consacrer et cette activité est portée par les bénévoles.
Les collectives, donc c'est une association ou un collectif plutôt ?
C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est un réseau de soutien pour les femmes qui a été un collectif et qui maintenant fait partie de l'espace social dans ses missions, plus particulièrement de l'accès aux droits. Il est intégré maintenant à l'espace social.
On peut rappeler un petit peu l'historique de cette structure ?
Moi, je suis arrivée un peu plus tard, mais à partir de 2009, il y a ce groupe qui s'est constitué, qui voulait intervenir en milieu scolaire, et où des femmes essentiellement se sont regroupées, il y avait quelques hommes, pour arriver à introduire des habitudes de respect. De langage respectueux, de comportement respectueux. Et petit à petit, on est arrivé à dire il faut être vigilant sur le territoire parce que les services s'en vont de plus en plus et que on a de moins en moins, par exemple, les permanences juridiques. On avait une psychologue qui venait aider les femmes victimes de violences, femmes ou hommes d'ailleurs, victimes de violences particulièrement conjugales. Et ces services étaient en train de reculer, d'où l'importance d'être présent et de faire le relais de ces personnes qui viennent d'autres territoires, qui connaissent pas le DIWA, et de, eux ils interviennent sur le fond, à la limite c'est leur métier d'être juriste ou d'aider à des démarches administratives, juridiques, etc. Et nous, on connaît beaucoup mieux tous les organismes et les évolutions des modalités de travail en partenariat sur le territoire. D'où l'importance d'être placé à l'espace social et culturel du DIWA, où on voit énormément de monde, où on reçoit des permanences et où on travaille beaucoup avec les partenaires puisqu'on a une animation territoriale. Donc je fais partie en fait, plus particulièrement des administrateurs de l'espace social et culturel du DIWA et je suis très contente que ce soit intégré dans nos missions.
Je reviens sur cette initiative auprès de la cité scolaire,
oui.
avec l'introduction d'un certain respect dans les relations. C'est une opération qui continue toujours au sein de l'établissement ou alors vous avez trouvé d'autres modes d'opération ?
Oui, ça a été un petit peu difficile à mettre en place. C'était surtout la conseillère conjugale et familiale du centre de planification qui avait cette préoccupation. Depuis, elle est présente à l'intérieur de la cité scolaire. en collaboration, bien sûr, avec tout le personnel et particulièrement l'infirmier scolaire, Cyril, et aussi avec les éducateurs de l'espace jeune et donc Anne-Laure Bonnardel qui est en train de se former aussi comme conseillère conjugale et familiale et qui fait de l'éducation à la sexualité. Et actuellement, une permanence d'écoute des jeunes sur les questions liées à la sexualité. Donc oui, il y a eu un progrès en 10 ans. Puisqu'on est vraiment, c'est pas moi qui suis présente, mais ce message est présent à l'intérieur de la cité scolaire.
Est-ce que le progrès justement de cette démarche ne serait-ce pas de justement disparaître, ce service ?
Alors, c'est marrant, ça me ramène à quelque chose que je vais dire en mon nom personnel, c'est-à-dire que l'éducation, elle ne se fait pas qu'à l'école. Il y a toute une part qui est de la responsabilité des parents, donc elle se fait en dehors de l'école et dans l'école. Mais ça va mieux si ça se fait des deux côtés, quoi. Donc pour l'instant, on n'en est pas à avoir des pratiques systématiques de relations respectueuses.
On va continuer sur donc cette journée du 25, plus en détail,
oui.
Avec ce Respect Yourself, donc
yes.
Un atelier d'expression pour femmes, de femmes, mais ouvert à tous quand même.
En fait, c'est une erreur dans la. Là, c'est intéressant de le relever parce que on a eu un problème au moment de la finalisation de l'affiche. Les ateliers, ils sont ouverts à tous. Et c'est pour permettre aussi bien à des femmes qu'à des hommes de s'exprimer sur ces questions d'équité et de respect. Et c'est juste le soir de 16h, c'est même pas à 16h, c'est à partir de 17h30 qu'on va vous proposer une heure de lecture, d'animation, de présentation, de chansons, d'expression de femmes, spécifiquement de femmes. Parce qu'il se trouve qu'on n'était que des femmes. Je pense qu'il y aurait eu des hommes parmi nous, on aurait proposé aussi des expressions d'hommes sur ces questions-là. Donc c'est vraiment, on propose des expressions de femmes pendant une heure, mais vraiment c'est que sur ce temps-là qui est, je reprends mes horaires, de 18h30 à 19h30.
Donc, je reviens à l'atelier de 9h30, hein, du dimanche
oui,
matin.
Oui, celui animé par Gis, oui.
Voilà. Il y aura, quand je vois atelier au pluriel, il y aura plusieurs propositions autour de thématiques.
Il y a celui de Gis à 9h50. Il me semble de mémoire que c'est à 9h30. En tout cas, on ouvrira les portes à 9h30. Et il y a un atelier l'après-midi qui est le cercle de parole sur l'égalité et le respect. C'est ça les deux ateliers, un le matin, un l'après-midi. Donc l'atelier de Gis le matin, oui. 9h30, 12h.
Voilà, alors cet atelier consistera en quoi précisément auprès du public ?
Ben, de trouver une occasion de s'exprimer sur ces questions, de se respecter soi-même, au travers de propositions, et de se mettre en contact avec ce qu'on ressent et l'exprimer avec son imaginaire. Donc ça peut, je ne sais pas qu'est-ce qui va être privilégié. Je sais que Gis utilise à la fois l'écriture, mais aussi d'autres vecteurs d'expression artistique. Pas seulement les mots. Ça peut être aussi des choses plus visuelles, quoi.
Ensuite, à 13h30, alors ces ateliers avec Gis se déroulent jusqu'à midi, donc.
Donc c'est un seul même atelier,
oui.
Animé par Gis, il n'y a qu'une animatrice, ça se déroule jusqu'à midi. Et puis là, alors je ne l'ai pas marqué, mais on va...
Il y a une pause repas.
Oui, il va y avoir des petites choses à grignoter. Vous êtes invités, si vous venez sur la journée, à amener un petit truc à partager. Voilà, nous on aura amené les choses de base et puis c'est l'occasion de continuer un peu ensemble.
Il y aura des boissons chaudes sur place ou
oui.
Il faut amener ça aussi ?
Ça, vous pouvez en amener, mais on en fera aussi.
Voilà. Et donc, après cette petite entracte, les ateliers reprennent avec un cercle de parole intitulé « Égalité et respect
oui. ».
Et ça, à partir de 16 ans.
Voilà. On tient à écrire que c'est à partir de 16 ans parce qu'on a la, on se rend compte que souvent c'est des personnes plus âgées qui viennent alors qu'en réalité c'est vraiment au contraire notre souhait c'est d'avoir des personnes jeunes et pas d'avoir que des générations bon vous me voyez pas à l'antenne mais pas des gens de ma génération qui sont des anciennes militantes non on a envie de voir des jeunes d'ailleurs dans l'équipe qui va animer on a des personnes assez jeunes mais à partir de 16 ans, ça, il y a aucune cachotterie. C'est audible et vivable pour tout le monde.
Cette ouverture aux plus jeunes, ça répond à une nécessité, à une demande ?
Alors oui, du côté de l'espace jeune, par exemple. Donc comme l'espace social et culturel du Diwa a cet espace jeune avec des éducateurs, ils sont en contact avec les jeunes de ces âges-là et ils voient où sont les besoins et les demandes. Donc l'idée aussi, c'est que les jeunes qui sont suivis par eux puissent participer à nos actions.
Un cercle de parole qui sera autour de cette égalité et respect.
Oui.
Comment sera-t-il animé ? Donc, je vois Marie-Ange, oui. Sera l'animatrice.
Oui, Marie-Ange a animé beaucoup et anime toujours des cercles. Elle anime des cercles de femmes, mais elle anime des cercles de parole de femmes. Il y a eu des cercles de parole d'hommes et des cercles de parole mixtes dans le Diwa. Il y a une petite charte d'engagement. Mais en fait, c'est vraiment l'engagement, c'est de pratiquer l'écoute dans le respect de celle ou celui qui parle sans intervenir. C'est de respecter la notion de confidentialité, de ce qui est partagé, c'est-à-dire que ce qui va se dire dans ce cercle, il restera, n'en sortira pas. En tout cas, rien qui permette de reconnaître les personnes qui les ont exprimées. Et chacun parle en son nom personnel, avec sa propre expérience, sans chercher à conseiller ou convaincre. L'important étant de arriver à sortir ce qu'on a en soi et se sentir écouté. Donc c'est parler à la première personne, ce qui dans la vie courante ne se fait pas toujours, et alors que là c'est la règle.
Il y a un sous-titre le ruban blanc contre les violences machistes
oui.
Pour cette ces journées avec une petite phrase le féminisme n'a jamais tué personne le machisme tue tous les jours et c'est une phrase de Benoît Groult qui est
Benoît Groult. Alors Benoît Groult je voudrais pas me tromper je sais pas c'est pas elle qui avait écrit la Malcastrée en tout cas ça a été une militante féministe des années 70 avant la loi Veil, qu'on connaît, et avant la loi Neuwirth, qu'on connaît un peu moins. Mais enfin, ces lois qui ont rendu libre et gratuit, puis gratuit, la contraception et l'avortement, puisque avant 1974, c'était encore illégal, hein, l'avortement, et la contraception, on n'avait pas le droit d'en parler. Donc on était encore en train de vouloir repeupler le pays. Et donc il y a eu des femmes qui se sont engagées, dont Benoît Groult, qui est décédée il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, je crois. Hein. Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais en tout cas elle a écrit il y a encore peu de temps.
Et alors, poursuivre donc à partir de 16h, une lecture théâtrale, Fragments de femmes violentes est le titre. On revient sur ce que vous avez justement présenté avec cette histoire de Montréal, hein, du féminicide
ouais,
de Montréal.
Ouais.
Comment ça va se dérouler cette lecture ?
Alors déjà le titre, même nous ça nous a interpellés parce qu'on parle de femmes victimes de violences et tout d'un coup on propose un texte qui s'appelle « Fragments de femmes violentes ». C'est le titre, d'après ce que j'ai compris, du texte. Et en fait, c'est des femmes qui rencontrent la mère de l'auteur du massacre qui a été perpétré dans l'école polytechnique de Montréal. Et donc, c'est ces échanges. Je crois qu'à un moment, elles sont... Je ne l'ai pas encore vue, la lecture. Je vais la découvrir avec vous. Mais à un moment, elles interrogent cette mère en lui disant « Mais comment c'est possible d'éduquer quelqu'un pour qu'il en arrive à poser un acte comme ça ?» Voilà. C'est de ça qu'il est question.
Une lecture opérée par des femmes d'Oise.
Voilà.
Et puis, vous avez suffisamment de lectrices, justement, pour ça? Ou alors vous faites un appel à des lectrices sur l'émission?
C'est une des collectives, une personne qui est rentrée dans les collectives en nous faisant cette proposition, d'ailleurs. Qui fait partie de groupes de lecture. Donc, elle a réuni des personnes qu'elle connaissait pour faire cette lecture.
Le ruban blanc, c'est un symbole qui a été créé pour ce drame de Montréal.
À la suite de oui. ça, oui.
Est-ce que c'est le ruban blanc aussi du film de Michael Haneke? Bon, c'est une description d'une société protestante en Europe centrale, avec beaucoup d'austérité, où la femme n'a pas de parole, il n'y a que l'homme qui mène l'ensemble.
Ouais, ouais, ouais.
C'est très patriarcal.
Oui.
Est-ce que c'est un pied de nez à ça?
Alors,
aussi
aucune idée. Je ne sais pas pourquoi Michael Haneke a appelé ce film Le Ruban Blanc. Donc, et comme je pense que je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas en dire grand-chose. En tout cas, ça date de 91. La tuerie avait lieu en 89. Et donc, c'est des hommes de Toronto qui ont choisi de porter le ruban blanc. Les femmes, en fait, elles faisaient organiser des veillées funèbres et certaines portaient un ruban blanc. Et c'est devenu le symbole de cette demande d'arrêter le féminicide, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est-à-dire quand on parle du ruban blanc contre les violences machistes, c'est le fait qu'on considère que le monde appartient aux hommes et que les femmes sont au service de ces hommes et qu'elles n'ont pas d'identité propre, en fait, et de volonté, et de désir et de capacité autre que de servir l'homme, quoi. Quand on dit derrière les grands hommes, il y a toujours une grande femme, oui, mais il peut y avoir des grandes femmes, et pourquoi pas des grands hommes derrière? Ce qui était le cas de Simone Veil, d'ailleurs.
Je vais résumer ma vie en un mot. Violée par qui? Mon demi-frère. Depuis quand? Depuis que mon père s'est marié avec sa mère. Tout simplement. Kikil, juste un bébé, tout simplement. Juste un bébé, tout simplement. Tout simplement. animé, tout simplement. Juste animé, tout simplement. Juste un mimé, tout simplement. Depuis quand, depuis que mon père t'est marié avec sa mère. Juste un mimé, tout simplement. Juste un mimé, tout simplement. Juste un mimé, tout simplement. Juste un mimé, tout simplement.
La suite, à 18h30, hein, il y aura quelque chose de plus animé, donc avec des chansons de lecture.
Oui.
Donc là, ce seront toujours les femmes du collectif qui
là,
vont
agir.
Là,
c'est les femmes des collectifs. Voilà, oui. C'est vraiment soit des textes qu'on a écrits, soit de gens qu'on connaît, qu'on va lire et qu'on a choisi, qu'on va lire ou chanter. Donc voilà, moi je vais amener ma guitare, mais je vais m'en servir très très peu. On a chacune apporté ce qu'on avait envie de partager à ce moment-là autour de la violence subie et autour aussi de ce qu'on a envie de dire sur la réparation. Je veux alerter sur le fait qu'il peut y avoir des petits fly qui indiquent l'inverse, mais c'est le programme du Pestel qui est à jour.
Voilà. Donc, le vendredi 23 novembre à 20h30, jusqu'à la gare d'un film de Xavier Legrand.
Oui.
On peut résumer ce film en quelques mots ?
Alors, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il s'agit, et je connais pas mal de gens qui l'ont vu, c'est un film qui parle de toute cette pression psychologique, toutes ces tensions, les violences qu'on voit pas dans le film, mais qu'on pressent autour de l'enjeu de la garde des enfants. Au moment d'une séparation, c'est souvent, puisqu'on va se centrer, nous, beaucoup sur les violences conjugales dans tout ce qu'on fait là, intrafamiliales plutôt. Et donc, au moment d'une séparation et après la séparation, l'enfant va être un otage pour régler des problèmes d'adultes et il va y avoir des choses très violentes. Donc, ça permet d'attirer l'attention sur ce qui se passe, quoi. Il paraît qu'il est très dur, mais très, très vrai. Voilà, et c'est pour ça que derrière, on aura un débat. Et la juriste du CIDFF, Pascale Varret, du CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, donc la juriste Pascale Varret, restera pour ce moment d'échange. Et on a pu constater dans nos autres événements des années précédentes que ces interventions sont toujours à la fois justement très précise sur des aspects juridiques et très humaine de par son expérience de femme déjà et de mère et son expérience d'écoute des victimes.
On peut peut-être parler un peu plus longuement du CIDFF.
Alors le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est une association, loi 1901, mais qui a en charge de relayer les politiques sur les droits des femmes et des familles. Donc une grosse partie des financements de l'État leur est versée pour faire ce travail-là. Et Donc ils ont une assemblée générale, ils ont des administrateurs, ils ont des bénévoles et des salariés. Et ils font des permanences. Alors le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Drôme a la chance de ne pas avoir déposé le bilan, contrairement à celui de l'Isère, et a passé une très grosse crise financière il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans. Ils ont même dû se séparer d'une partie de leur personnel. Et actuellement, ils arrivent à travailler sereinement et ils font des permanences sur tout le département. Juridique, d'aide aux démarches administratives, ils ont des accueils de jour, accueils de nuit, voilà, des permanences aussi. Ben donc, dans les gendarmeries, on a réussi à avoir une intervenante sociale en gendarmerie. On en a maintenant 2 dans la Drôme, une dans le nord de la Drôme, une dans le sud. Donc notre territoire d'Iwa, il est partagé entre les 2 intervenantes, puisque la Motte-Chalancon dépend de Rémusat et Nyons. Et il y a aussi des intervenantes en commissariat de police dans les grandes villes.
Tout à l'heure, vous parliez de la gendarmerie. Quelle est sa participation au sein du DIWA, par exemple?
Alors là, justement, moi, je suis vraiment heureuse de cette action qu'on est en train de mener, puisque la formation, la sensibilisation aux violences conjugales qui va avoir lieu le 23 novembre, mais qui se fait que sur invitation pour des gens qui sont au contact du public. On a 19 gendarmes qui se sont inscrits à suivre cette formation. Ça veut dire que, d'une part, ils en éprouvent le besoin et qu'ils n'ont pas obligatoirement des réponses. Et d'autre part, la présence d'intervenantes sociales en gendarmerie a progressivement réussi à mettre en éveil ce besoin de mieux connaître ce qui peut se passer, pourquoi les femmes se rétractent. Elles vont porter plainte, finalement elles retirent la plainte, puis finalement elles reviennent, et puis elles ont des propos incohérents parce qu'en fait elles sont sous le choc. Voilà, il y a des... je pense qu'ils sont en première ligne, nous aussi, et que ça nous permet d'apprendre à parler le même langage et travailler beaucoup plus harmonieusement ensemble pour l'aide aux personnes. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une grande réussite ce qu'on fait là.
Vendredi 30 novembre, pour clore cette série, hein, je reviendrai quand même à la soirée apéritif et scène ouverte. Ouais. Les chatouilles, donc en projection le vendredi 30 novembre, mm-hmm. toujours à 20h30, mm-hmm. Un film récemment sorti et mm-hmm. qui traite de relations interdites. Comment peut-on expliquer ça?
Il traite de l'abus sexuel et de ses conséquences. Dans des relations proches de la famille. Il faut savoir que la plupart des abus sexuels ont lieu, la majorité ont lieu dans la famille ou avec des proches de la famille. Et donc ça montre à quel point ça peut impacter la vie d'adultes sans qu'ils en aient obligatoirement conscience, et comment ça peut aussi... se passer quand la conscience est présente. Par exemple, moi j'ai un ruban vert dans mon portefeuille, en dehors du ruban blanc, qui est de dire qu'il faut enlever le délai de prescription pour ce genre de crime sexuel, parce qu'il y a une amnésie traumatique qui fait que les victimes ne le savent pas ou le découvrent petit à petit, très tard, et vivent une sorte d'incapacité à avoir des relations sociales et affectives harmonieuses, parfois toute une vie. On a des femmes de plus de 70 ans qui sont encore dans cette difficulté. Il y a très peu de prise en charge de ces difficultés.
Des choses qui sont quand même sur le point de changer, d'après vous. Là, récemment, Le Monde a publié une information comme quoi une femme sur 4 en France était victime de harcèlement ou de violence.
Alors là, on a commencé à parler, en effet, des femmes adultes victimes de harcèlement au travail, dans la rue, etc. Ce qui est un peu différent de ce qu'on disait sur ce qui est abordé dans les chatouilles, qui est le fait que on abuse d'enfants qui peuvent être garçons ou filles pour satisfaire des besoins sexuels, et que ce comportement va faire que ces personnes auront des, à répétition dans leur vie d'adulte, des situations où elles vont se retrouver victimes. Donc ça, c'est une des choses. Donc tant qu'on ne traite pas ça au niveau de l'enfance, il faut savoir qu'une victime, on pense qu'à peu près 8 victimes sur 10 deviennent auteurs. Après. Donc c'est comme si on était mordu par un vampire, quoi. Et qu'on transmette la maladie derrière. Donc ça, il y a besoin de l'enrayer et de le prendre en compte. De protéger les enfants, de traiter les auteurs et de traiter les enfants ou les adultes qui sont ou qui ont été victimes. Voilà. Par contre, oui, après, pourquoi du harcèlement ? Parce qu'on pense que c'est normal que la femme soit un objet. C'est pas... Voilà, si on jauge une femme par la forme de ses fesses... par ses attributs sexuels et que si elle se met en valeur, ça veut dire qu'elle demande qu'à être violée, ben c'est peut-être une drôle de vision du monde, quoi. Un homme qui se met en short, on le viole pas. On a des invités vraiment rares qui sont Perrine Millet, qui est une gynécologue obstétricienne qui vient de mettre en place dans le cadre d'une association qui s'appelle Un Maillon Manquant, une formation, un diplôme interuniversitaire pour aller de la maltraitance vers la bientraitance des femmes. C'est-à-dire pour apprendre à repérer les signes de maltraitance, récentes ou anciennes, les nommer et permettre aux femmes de se mettre en route. Et puis l'association Stop Violence Sexuelle 2607, Drôme Ardèche, qui a aussi un médecin, une médecin gynécologue, endocrinologue, qui met en place des formations aussi sur comment réparer les violences sexuelles.
Justement, cette évolution des mentalités, pas forcément bonifiante, est-ce qu'on peut en trouver les sources de cette décrépitude, je dirais ?
De ce comportement machiste, en fait. Hein. Mais c'est pas... moi, je crois que c'est un héritage qui date d'il y a très longtemps. Et cette société dont on parlait tout à l'heure du film de Michael Haneke, on voit bien que même chez nous, moi j'ai vécu en campagne, je suis une fille d'agriculteur et j'ai vécu ces traditions avec un patriarche qui est le maître de tout ce qui est à la maison. Il fallait enlever les chaussures du père, lui amener les pantoufles, le servir. On était vraiment tourné vers les besoins de l'homme et toute l'économie même tournait autour de ça. En fait, on est en train petit à petit de faire entendre que les femmes sont l'égale de l'homme et qu'elles ont leur propre façon de penser, leur propre centre d'intérêt. Elles ne sont pas au service de l'homme, elles sont au service de la vie, en fait, que ce soit homme, femme. Voilà, et je pense que c'est vraiment l'héritage d'une société patriarcale qu'on est en train de payer. C'est-à-dire qu'avant, les hommes, on appelait ça le devoir conjugal, par exemple. Maintenant, c'est un viol. Là, la juriste va nous le rappeler. Le viol conjugal, il existe et c'est même une circonstance aggravante. Alors qu'avant, on disait, c'est le devoir conjugal. Tu dois te soumettre à ton homme. Et si quand il te bat, si tu sais pas pourquoi, enfin si lui sait pas pourquoi il te bat, toi tu le sais, quoi. Donc on a encore ça. On l'avait dans la religion catholique, on l'a dans d'autres religions actuellement, et ça a des répercussions dans la vie dans la rue.
La Chambre des députés est dotée maintenant avec une parité au niveau des postes, des représentations, hommes-femmes. Est-ce que depuis 2 ans, c'est plutôt flagrant, est-ce qu'il y a eu une évolution et un soutien du pouvoir dans cette démarche du féminisme ?
Alors, le soutien du pouvoir, c'est juste des mots, puisque les moyens n'ont pas du tout augmenté, ils auraient plus tendance à diminuer. Donc, voilà, de ce côté-là, on affiche une volonté de faire, mais il n'y a rien qui est mis en acte. Le fait qu'il y ait plus de femmes, je pense que maintenant, elles peuvent se permettre de s'habiller en femmes sans se faire siffler.
Quoique ce soit encore discutable, parce qu'il y a des polémiques encore sur certaines députées ou ministres avec certaines tenues.
Voilà. Donc moi, je ne dirais pas. Après aussi, il y a quelque chose, moi, en tant que... Ça, c'est la militante qui parle. Et peut-être aussi une femme qui a évolué dans un milieu plutôt d'hommes et où c'était un handicap dans la vie professionnelle d'être une femme. Les femmes, pour arriver à avoir un certain pouvoir, à arriver à des postes à responsabilité, calquent, se mettent dans le modèle des hommes. Et elles sont capables même d'être pires à ce moment-là. C'est-à-dire que ce n'est plus leur féminité qui va agir. C'est vraiment le besoin d'arriver au pouvoir. Et à ce moment-là, tout est permis. Voilà.
Et puis, pour terminer, cette fameuse journée du 25 novembre, ce dimanche.
Ce dimanche, c'est la fête.
Voilà, à 19h30, donc apéritif et scène ouverte.
Oui.
Pareil, là, apéritif partagé.
Voilà, si on amène des choses, c'est tant mieux. On a envie de partager avec les gens. Il y aura le minimum déjà pour pouvoir partager. Et puis, on amène ce qu'on veut. Ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être un texte qu'on a envie de lire. Je pense, moi, à certaines soirées de slam où les gens arrivaient avec leur texte et puis hop, c'était comme une danse où les gens arrivent et puis ils ont envie à ce moment-là d'exprimer quelque chose. Voilà.
Alors, tous ces renseignements, on peut les trouver sur des flyers qui sont disponibles dans quels endroits ?
Alors, c'est pas moi qui ai distribué sur Die, il y en a dans les communes autour de Die, donc dans tous les lieux où on a l'habitude de trouver des flyers et des affiches. Et puis surtout, on l'a mis en ligne sur Ensemble Ici.
Est-ce qu'il y a des prises de rendez-vous ou des inscriptions pour des ateliers peut-être un peu restreints ?
C'est mieux, oui. Alors, je crois que je crois pas dire de bêtises, l'atelier de Gis, il y a son numéro de téléphone pour s'inscrire. Alors, l'atelier du matin, c'est une inscription au 06... 65, 26, 46, 83. Je répète, 06, 65, 26, 46, 83. Et sinon, sur le mail des collectives, collective au pluriel dit, @gmail.com. Et à ce moment-là, on le transfère. Et l'après-midi, pour le cercle de parole, il n'y a pas d'inscription.
Eh bien, Pascal Évieux, merci d'être venu nous présenter ces rendez-vous organisés par les collectives dans le cadre de la Journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et ça, à partir du 23 jusqu'au 30 novembre, avec cette grosse journée du 25 novembre à l'espace social.
À la salle communautaire, la grande salle où on a vraiment de la place pour s'exprimer.
Ce sera indiqué de toute manière.
Oui,
il y a un
sûr.
Fléchage hein, depuis le rez-de-chaussée. Eh bien, Pascal, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, Radio Diwa.
Au revoir.
Au revoir.
Inter-vue.